Sylvia, la fille du rentier. Vers la fin de l'école primaire, une personnalité étrange fit son apparition dans notre classe et fut installée d'autorité à côté de moi. C'était une adolescente âgée de 2 ou 3 ans de plus que nous au moins, femme déjà formée, tandis que nous n'étions, nous, que des fillettes dégingandées. Ses lèvres lourdes, ses yeux noirs et son casque de cheveux châtains s'inscrivait dans une allure générale qui avait quelque chose de bovin et d'apathique. Devant mentionner sur la feuille rituelle la profession de son père, elle écrivit « rentier ». Ce mot ne nous disait rien. Elle nous expliqua crânement « Cela veut dire que mon père n'a pas besoin de travailler, il vit de ses rentes ». Le lendemain, un garçon de la classe revint et déclara d'un ton cassant « J'ai demandé à mon père ». Il m'a dit que ça n'existe pas, rentier. C'est pas vrai. Elle ne souffle un mot. Toutefois, régulièrement, elle brisait son silence pour nous vanter avec fierté les rubis, émeraudes et autres parures de diamants que son père, qui l'idolâtrait étrangement, lui offrait et qu'ils allaient mettre de concert à la banque. Les gamines faisaient alors cercle autour d'elle et lui disaient « Waouh, tu as de la chance, toi !» Quelque chose pourtant, au fond de nous, nous empêchait d'en être si sûr, ne serait-ce que son retard scolaire considérable, son absence de mère et un décalage humain qui la vouait à la solitude. Cette adolescente muette nous déconcertait, brisant nos repères enfantins. Il arrivait qu'elle survienne le matin avec un retard considérable, arguant qu'elle n'avait pu se réveiller. Un jour, nous avions handball. Tous en tenue sur le terrain, et le match étant largement entamé, nous la vîmes survenir avec son père. Elle portait un manteau de fourrure et ses talons hauts qui s'enfonçaient dans le sable la faisaient trébucher. L'instituteur ne la gronda pas et le match continua. C'était une voisine de table discrète et silencieuse au possible. Pourtant, elle se permit un jour de prendre en main la médaille en or que je portais au cou et me demanda « Qui est-ce ?» Devant son air d'incompréhension totale, je tentai de lui expliquer « Marie, la Sainte Vierge, la mère de Jésus. » Et nous ne reparlâmes plus de cette affaire. Son père était lui aussi un personnage bizarre. Il correspondait à Judas Iscariote tel que plusieurs peintres l'ont imaginé. Ça ne s'invente pas. Roux, le teint vert, le visage émacié, le nez crochu sous des yeux très mobiles, d'inquiétantes pupilles rusées incapables de vous regarder en face. Il avait un fils qui semblait son portrait, au physique et au moral, avec une allure moins onctueuse. Un jour, Sylvia m'invita à son anniversaire. Quoique guère enthousiasmé, je sentais en moi que Jésus me demandait d'accepter. Terriblement seule, manifestement, elle n'avait pas d'autre copine que moi. Mon père me mena à la porte d'un appartement HLM d'un quartier populaire, et son père à elle, plus onctueux que jamais, vint ouvrir. Les yeux de cet homme flamboyaient, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme un animal piégé par un renard. Une tapisserie du genre scène de berger galant du XVIIIe siècle trônait dans le salon. Comme prévu, j'étais la seule invitée. Après le gâteau rituel, désireuse de fuir la présence insoutenable de cet homme obséquieux, je demandais à Sylvia « On ne va pas jouer dans ta chambre ?» Confuse, elle m'expliqua « Je n'ai pas de jouets. » Avec ahurissement, je répliquai « Tu n'as pas de jouets ?»« Non, mais mon frère en a. » Comme à l'appui de ses dires, son frère survint, costumé en Zorro, et commença à m'agresser avec son épée de plastique, emporté par une jalousie et une hostilité tangibles. L'atmosphère devenait pour moi irrespirable, et je ne pensais qu'à une chose, m'enfuir au plus vite. Au milieu de mes larmes, je découvris sa chambre. Dépourvue de tout bibelot féminin, son lit rouge, et une petite photo d'elle en tenue d'Ève dont je me demandais à quoi elle servait. Tout était trop bizarre, décidément. Des années après, je questionnai mon père, fonctionnaire de police. Mais enfin, son père n'a jamais été découvert? La police ne savait pas qu'il prostituait sa fille? Il fallait être aveugle quand même pour ne rien voir. Les enseignants devaient bien être au courant. Il me répliqua « On ne pouvait rien faire, elle était consentante. » Je sentis une indignation violente devant la lâcheté d'une telle logique sociale. En quoi peut-on dire qu'un enfant élevé par un proxénète ou un pédophile et n'ayant que lui comme référence peut librement choisir le vice? N'est-ce pas d'abord une victime à protéger? Et le retard scolaire de Sylvia, ne trahissait-il pas un manque de stimulation intellectuelle et vraisemblablement une exploitation sexuelle qui datait de bien des années? Peut-être 20 ans plus tard, un rebondissement inattendu me remit cet épisode en mémoire. J'étais alors sœur externe au Carmel. Une laïque à la gouaille de Titi Parisien et à la vaste érudition gardait la boutique à 16 heures. Je vis entrer dans le magasin claustral une silhouette étrange que la bénévole désigna comme une déesse égyptienne. Toute de cuir vêtue, la femme était casquée de cheveux châtains, les lèvres lourdes, les yeux noirs, l'air bovin, et une grande plume rouge était piquée sur sa tête. Elle ne me vit pas et je ne me manifestais pas à elle. Profondément ému, bouleversé, je la reconnus aussitôt et l'espionnai de loin. Elle sortit et rejoignit un jeune motard à l'allure compatissante. En sa compagnie, elle s'assit sur les marches du perron. Sous les yeux de chien battu du jeune homme, elle ouvrit avec d'infinies précautions un papier de soie et en sortit son achat. Une petite statuette de Madone à 4 sous en superbe plastique fluorescent.